Matinée. L'invité.
La semaine dernière, Esther Pivet, spécialiste française de la théorie du genre, a tenu une conférence à Lyon sur cette théorie du genre. Esther Pivet est polytechnicienne et mère de 4 enfants. Elle est la coordinatrice nationale de l'organisation Vigigender, qui depuis 2013 assure un travail d'information auprès des parents et des enseignants sur la diffusion de la théorie du genre à l'école. Elle est l'auteur du livre « Enquête sur la théorie du genre, comment les idéologues règnent encore sur l'école de nos enfants », publié aux éditions Artege en février. Esther Pivet, bonjour.
Bonjour madame.
Comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette théorie du genre ?
Cette théorie du genre est une théorie qui affirme que l'identité sexuelle, donc masculine ou féminine, ne serait qu'une construction de la société, que ce serait la culture qui nous ferait homme ou femme, que toutes nos différences de choix de métier, de choix de vie, d'aspiration profonde entre les hommes et les femmes ne seraient qu'une construction sociale par toute l'éducation reçue, et que le corps sexué ne dirait rien de notre personne en fait. Ce serait juste un corps biologique qui nous permet de vivre, mais que nous ne serions qu'une construction. C'est ça la théorie du genre, et que finalement, ce qui nous définirait, c'est notre genre. On décide d'être ce qu'on veut en fait. Notre identité, c'est ce que nous voulons être, homme, femme ou autre, et c'est aussi pour certains notre orientation sexuelle, c'est-à-dire les personnes vers lesquelles nous sommes attirés, du même sexe, de l'autre sexe ou des deux sexes. Cette orientation sexuelle serait aussi, ferait partie de notre identité, et donc notre identité ne serait plus finalement notre sexe biologique qui nous définit tout entier, mais ce que nous voulons être, nos désirs qui fonderaient notre identité. C'est ça la théorie du genre. Il y a une dissociation totale entre le corps et notre identité, qui est ce que nous voulons être.
Quel est le danger finalement de cette théorie ?
Le danger de cette théorie, c'est que c'est une théorie tout simplement qui détruit l'homme, puisqu'elle scinde l'homme finalement en deux. C'est le dualisme contemporain, une scission de la personne elle-même en fait. Cette théorie affirme que le corps finalement n'est rien, ne dit rien de notre personne. Or, la personne humaine justement, elle est son corps. Notre corps, c'est nous-mêmes. Notre corps, c'est pas juste un objet à part de nous et qui nous permet de vivre et qui nous permet juste de jouir et d'avoir du plaisir. Donc c'est une théorie qui détruit l'homme dans ce qu'il est au plus profond de lui-même, et donc il peut faire des ravages énormes, et notamment sur les enfants et les jeunes, puisque cette théorie s'attaque surtout à ses plus vulnérables, puisque les théoriciens du genre voient bien que bon, les adultes, ils ont quand même un petit peu du mal à avaler que tout n'est que construit et que finalement toute la biologie n'a aucune influence sur tous nos comportements, etc. Et donc les théoriciens du genre vont s'attaquer aux plus petits, et notamment à l'école, et c'est ça qui est dramatique, et c'est ça qui m'a mise en mouvement.
Vous êtes l'auteur du livre « Enquête sur la théorie du genre, comment les idéologues règnent encore sur l'école de nos enfants », publié aux éditions Artege en février. C'est un titre choc quand même, les idéologues qui règnent sur l'école de nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Oui, ils règnent sur l'école de nos enfants. En fait, depuis que l'ABCD de l'égalité a été abandonnée en 2014, beaucoup de gens ont pensé, puisque les médias n'en parlaient plus non plus, que la théorie du genre avait disparu de l'école. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que la théorie du genre a imprégné absolument toutes les matières, cela de la maternelle à la terminale, quasiment tout maintenant, les manuels scolaires, surtout en SVT, en sciences économiques et sociales et en enseignement moral et civique, sont imprégnés de théorie du genre. Et tout petit, et encore à la conférence que j'ai donnée à Lyon, il y avait environ 150 personnes. Nous avons eu deux témoignages de mamans, dont un qui était absolument poignant, de cette maman qui s'est mise à pleurer d'ailleurs, parce que sa fille doit jouer une pièce avec tous les enfants jusqu'au mois de juin. Elle joue une pièce où les enfants sont indifférenciés et ils doivent se faire des câlins, vous voyez, montrer de l'affection les uns envers les autres. Ils jouent des êtres indifférenciés et elle ne sait pas comment faire, elle est toute seule. Vous mettez dans la tête des enfants en fait que il n'y a pas de différence, qu'on est indifférencié et qu'on se choisit. Et je vous assure que la théorie du genre imprègne absolument toute l'école, à tel point que maintenant, dans les manuels qui sont envisagés pour l'année prochaine au lycée, dans la réforme du lycée, j'invite les parents à aller voir sur Internet, pour les SVT en seconde, on explique en SVT, donc c'est censé être des sciences, on explique aux jeunes que l'identité, c'est le fait de se sentir homme ou femme. Vous voyez, notre identité n'est plus définie par notre sexe biologique. Et donc, c'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est la théorie du genre qui est enseignée totalement. C'est plus sournois, c'est totalement enseigné. Et en fait, on a baissé la garde quelque part. Et moi, ça fait 6 années que je crie, je lance une alerte. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que finalement, bah, je parle un peu dans le vide. Et c'est difficile quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de soutien, quand on n'a pas le soutien des médias, d'informer. Donc, j'ai écrit ce livre en espérant que le plus grand nombre puisse le lire. Dramatique, et moi ça me fait beaucoup souffrir, et ça fait beaucoup souffrir d'enfants.
On a beaucoup parlé effectivement avec les ABCD de l'égalité, maintenant un peu moins. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux politiques et associations surtout qui affirment que cette théorie du genre n'existe pas, que c'est qu'une rumeur, une invention.
C'est un mensonge éhonté. Je voudrais que ces personnes-là se regardent dans la glace et vraiment disent vraiment je ne fais rien qui est de mal aux enfants. Non, non, ça n'existe pas. C'est un mensonge total. Il y a eu des livres écrits par notamment Bérénice Levé, La théorie du genre ou Le monde rêvé des anges, qui a eu un succès fou. Il y a eu Marguerite Peters qui a écrit dessus. Il faut arrêter de dire que ça n'existe pas. C'est juste un mensonge. C'est inimaginable de dire ça, en fait. Mais c'est juste pour faire croire aux gens qu'effectivement ça n'existe pas, pour que leur vigilance baisse et qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui va être enseigné à leurs enfants à l'école. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, les spectacles qui sont donnés à voir aux enfants à l'école, comme Mon frère, ma princesse, qui a déjà été donné dans 100 villes de France à des enfants de 8 ans, 9 ans, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir une petite fille et qui dit « la nature s'est trompée ». Et bien ça, c'est de la théorie du genre. On fait penser aux enfants, si vous voulez, que notre corps n'est rien et que je peux être ce que je veux. C'est faux et c'est un mensonge et c'est grave. Je trouve ça très grave. J'ai rien d'autre à dire. Je suis effarée que des adultes se permettent de dire des mensonges pareils et pour endoctriner. Et mon mot n'est pas trop fort. Vraiment, je le dis. Je le dis posément, même si je suis très affective et quand je vous le dis, je suis pas là avec mes tripes. J'ose le dire, c'est un endoctrinement qui se passe aujourd'hui à l'école.
Pourtant, à la base, ça partait d'un bon sentiment, de lutte contre l'homophobie, d'égalité entre les hommes et les femmes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Bien sûr, vous avez raison. Ça part d'un bon sentiment et de combats tout à fait légitimes. Le combat pour l'égalité homme-femme et la lutte contre l'homophobie. Mais c'est justement sous couvert de ces combats tout à fait légitimes que le genre s'est diffusé, c'est-à-dire que c'est pas l'égalité homme-femme qui est enseignée, l'égalité de dignité et donc de droit, et donc le respect des hommes et des femmes, et d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale a dit lui-même, la BCD d'égalité était mal faite, ce qu'il faut apprendre c'est le respect entre les garçons et les filles. Très bien, c'est pas l'égalité dans le sens indifférenciation. Là, ce qu'on apprend aux enfants, c'est que c'est indifférencié, que finalement on choisit, qu'il n'y a pas de différence, comme tout est construit, bah, tu choisis qui tu veux être. Et donc ce n'est pas la véritable égalité, c'est un égalitarisme, une indifférenciation, et donc on profite de cette égalité pour arriver à ça. Et puis, la lutte contre l'homophobie dont il s'agit, à l'école, ce n'est pas du tout apprendre aux enfants à se respecter les uns les autres, mais de manière globale, à respecter toute personne, à l'accueillir comme un don, à se mettre à son service. C'est pas du tout ça. C'est mettre sur le même plan l'hétérosexualité, donc la sexualité entre un homme et une femme, le couple humain, et puis la sexualité entre deux hommes et deux femmes. C'est ça aujourd'hui la lutte contre l'homophobie qui est faite à l'école. Dans les manuels de les SVT qui sont prévus pour l'année prochaine, pour la rentrée, donc en seconde, la réforme du lycée, on présente en SVT l'hétérosexualité, l'homosexualité, on les met strictement sur le même plan. Et bien ça, c'est la théorie du genre qui est à l'école. Voilà.
Vous risquez de passer pour une homophobe en disant ça.
Je réfute cet argument. Ce n'est pas de l'homophobie que de dire que l'hétérosexualité et l'homosexualité ne peuvent pas être mises sur le même plan. Je réfute. On ne peut pas dire à un enfant que tout est pareil. C'est faux, c'est un mensonge. Qu'on peut me traiter d'homophobe, oui, évidemment, on me traitera d'homophobe pour éviter tout argument, pour me classer dans une case et que surtout les gens ne m'écoutent pas. Bon, mais écoutez, allez dire à un enfant que deux hommes, deux femmes et un homme et une femme, c'est pareil, allez-y, c'est un mensonge.
On parle de l'école beaucoup, mais finalement, est-ce que ce serait pas que la partie émergée de l'iceberg, est-ce que le problème serait pas plus global ? Est-ce que c'est pas un problème d'idéologie, de vision du monde dans les arts, le divertissement, la culture ? Vous parliez des spectacles tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu réducteur finalement de s'arrêter à l'école ?
C'est global en fait. Cette idéologie du genre n'est pas toute seule. Enfin, elle vient des années 50, des États-Unis notamment. Je dirais que c'est l'aboutissement de tout un processus de déconstruction en fait. Déconstruction de la culture, c'est déconstruction de tous les repères. Et le repère ultime en fait, le repère qui est le fondement de l'humanité, c'est la différence sexuelle. Et donc la théorie du genre vient détruire ce repère fondamental. Et en détruisant la différence sexuelle, bah, on détruit la famille, on détruit l'homme, puisque l'homme vient de la différence sexuelle, et l'homme a besoin de cette différence sexuelle pour exister, c'est-à-dire que, non pas seulement pour naître, mais un homme masculin a besoin de la femme pour se révéler, puisque la masculinité est pour la féminité. La masculinité ne peut se révéler que par la féminité, et de même la féminité ne peut se révéler que par la masculinité. L'un va avec l'autre, en fait il y a une réciprocité entre l'homme et la femme. Sans la femme, l'homme ne peut se révéler, et sans l'homme, la femme ne peut se révéler. En voulant supprimer cette différence sexuelle, eh bien, on empêche les hommes et les femmes, finalement, de se révéler. Dès qu'un homme va tenir une porte, offrir un bouquet à une femme, ça y est, il est sexiste, quoi. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Un homme va porter un bagage d'une femme, ça y est, il est sexiste. Il faut surtout qu'il range sa force dans le placard, parce que... Je vais vous raconter un témoignage qu'on a eu dans la conférence. C'est un instituteur à la retraite. Et il nous a dit, bah voilà, dernière formation que j'ai eue, c'était une grand-messe avec une centaine de professeurs, c'était une formation sur l'égalité homme-femme. La formatrice leur présentait une page de manuel de CP. et elle leur demande « Est-ce que vous ne voyez pas un problème sur cette page ?» Alors les professeurs regardent « Non, on ne voit pas de problème. Une page de lecture, non, on ne voit pas de problème. » L'intervenante leur dit « Mais vous ne voyez pas là l'image là ? C'est un petit garçon qui est en train de signer une bûche. »« Bah oui, et alors il y a un problème ? Non, on ne voit pas le problème. » »« Pourquoi on n'a pas mis Sophie, la petite fille du manuel ? Pourquoi c'est pas Sophie qui scie la bûche ?» On marche sur la tête là. C'est hallucinant quoi. Le petit garçon avec sa force, il peut pas scier la bûche, non, parce que c'en est trop dans les stéréotypes et il faut que ce soit la fille qui scie la bûche. Alors du coup, l'instituteur, ils étaient plusieurs à s'en prendre un peu à cette idéologie absolument absurde. Il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, eh ben écoute, maintenant c'est super ma chérie, j'ai appris un truc, c'est à toi d'aller scier le bois. Moi je le fais plus. En rigolant bien sûr. Mais voyez l'absurdité à laquelle on arrive. Faut qu'on arrête avec cette absurdité de vouloir lutter contre tous les stéréotypes sexués. Les stéréotypes sexués, une bonne partie est inscrite aussi dans la nature. Voilà. La force masculine, elle a un sens, elle a une utilité, et si on la met sous le boisseau, on ne permet pas à l'homme de se révéler, et on va faire qu'augmenter finalement la lutte des sexes, et c'est absurde.
Et les stéréotypes sexués qui sont là vont même au-delà des programmes, quand bien même ça disparaîtrait des programmes scolaires aujourd'hui, ça peut continuer à rester dans la pensée des instituteurs, et finalement les élèves apprennent aussi de ce que disent les instituteurs, de ce que sont les instituteurs. Que ce soit dans les programmes ou pas, si les professeurs ont cette idéologie à cœur, ils la transmettront quand même.
Tout à fait. Dans les activités qu'ils donnent à faire, les livres qu'ils donnent à lire, absolument, oui. Après, de fait, il existe énormément de livres de lecture pour enfants qui inversent aujourd'hui les stéréotypes sexués. Le pire que j'ai vu, c'est un livre qui s'appelle « Je veux un zizi ». Et donc une petite fille qui dit qu'elle aimerait bien avoir un zizi, parce que comme ça, elle ne serait pas obligée d'avoir un ventre gros comme un ballon pour avoir des bébés. Et puis petit garçon qui dit « Bah moi, j'aimerais bien avoir un ventre gros comme un ballon avec un bébé dans mon ventre ». Donc le stéréotype le plus fondamental, qui est celui de la femme qui porte l'enfant, celui-là même est détruit dans l'esprit des enfants. Et ce livre, je vous assure, est donné à lire aux enfants, puisqu'il est donné à lire dans le cadre d'un concours qui s'appelle « Lire Ego » et qui a déjà touché 60 000 enfants en 10 ans en France, en Ile-de-France essentiellement. Enfin, j'ose espérer que c'est que en Ile-de-France. C'est déjà assez terrible comme ça. Donc oui, bien sûr, il y a des professeurs militants et parfois l'éducation nationale qui prônent ces activités totalement militantes.
Vous pensez pas qu'ils peuvent être juste militants parce qu'ils y croient, tout simplement, en dehors de l'éducation
nationale ? Ah mais complètement, je suis d'accord avec vous. C'est ça le problème, oui. C'est pour ça que moi je dis toujours, il faut toujours considérer que les professeurs sont tous pour le bien des enfants, sinon ils ne feraient pas ce métier. Il faut toujours leur parler avec bienveillance. On n'est pas là pour se mettre à dos les professeurs. On est là pour travailler ensemble pour le bien des enfants. On confie nos enfants à l'école, c'est ce qu'on a de plus précieux, et on fait confiance à l'école. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y en a qui profitent de la confiance que les parents font aux professeurs pour diffuser cette idéologie. Et vous avez raison, les professeurs qui la diffusent, cette idéologie, il y a deux sortes. Ceux qui ne sont pas au courant et qui pensent bien faire, en parlant d'égalité garçon-fille, mais mal comprise. Donc ils luttent contre les stéréotypes parce qu'ils pensent que c'est bien, mais parce qu'ils n'ont pas vraiment compris les dessous de l'affaire. Et puis vous avez les professeurs qui sont absolument militants du genre. Mais comme vous dites, pour eux, le genre n'est pas une idéologie. Pour eux, c'est un bien. Et donc, ils pensent bien faire, encore une fois, en diffusant ça auprès des enfants. Mais ces professeurs militants, c'est même pas la peine de leur parler. Ils ne changeront jamais d'avis. Ça veut dire que quand on est dans l'idéologie, qu'on est persuadé d'avoir raison sur une idéologie, on ne peut pas faire changer d'avis les gens. Et donc, moi, la seule solution que je conseille aux gens, et d'ailleurs, c'était ce que j'aurais voulu conseiller à cette jeune femme qui pleurait, qui savait plus quoi faire, mais c'est compliqué aussi d'enlever son enfant de l'école. Eh bien, c'est d'enlever l'enfant de l'école et de changer d'école. J'ai eu aussi le témoignage d'une institutrice qui avait des pressions du rectorat, de l'inspecteur, pour lire des livres justement qui inversent ces stéréotypes. Elle a eu tellement de pression qu'elle a démissionné et elle a créé son école hors contrat.
Que ce soit école publique ou privée, elles sont toutes concernées par ce problème ?
Toutes, absolument. Toutes. Alors bien sûr, dans le privé, il y a une latitude dans les méthodes qui est un peu plus grande, et puis dans les moyens que vous utilisez, et puis aussi, normalement, enfin, j'ose espérer que dans le privé, le directeur donne une vision enfin, à son établissement, mais il n'a pas la main sur ses professeurs totalement, pas du tout. Et donc il peut y avoir aussi, et j'en ai énormément d'exemples dans les établissements privés, des professeurs qui diffusent la théorie du genre, bien sûr.
Pourtant, soyons clairs, on est forcé aussi de reconnaître qu'il y a forcément une part de construction en chacun de nous. Bien sûr, il y a le naturel, il y a le sexe biologique, mais il y a quand même une part de construction culturelle.
Absolument, bah, heureusement, sinon on serait à l'état sauvage. C'est quoi le rôle de la culture ? La culture, elle est là pour que le naturel puisse s'épanouir. La culture, elle est là pour développer le potentiel naturel. Si votre enfant a un don pour le piano, vous voyez très bien à ses mains, la manière dont il les pose, etc. Vous voyez qu'il a un don pour ça. Et si vous dites, bah non, mais en fait, non, moi, je vais lui faire faire du chant parce que je préfère le chant. Il a une voix de crécelle, mais c'est pas grave, on va lui faire faire du chant. Eh bien, il va avoir des difficultés dans cet apprentissage, ça va être douloureux pour lui, et puis le résultat, au final, en chant, sera pas top. Eh bien, la masculinité et la féminité, c'est pareil, si vous voulez. La masculinité et la féminité, on est avec ça. C'est un potentiel que l'on reçoit à naissance, qui est dans tout notre corps. Toutes nos cellules sont sexuées. On a des hormones masculines ou des hormones féminines. Le cerveau aussi est sexué. Maintenant, le plus en plus, les neurosciences le montrent. Et donc ce potentiel naturel, en fait, eh bien la culture est là pour pouvoir le faire se développer. Et si vous forcez le garçon à le faire faire des choses qui ne sont pas dans son potentiel naturel, eh bien ça peut créer des troubles psychologiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut absolument pas que le garçon joue à la poupée ou que les garçons fassent la danse classique, ce n'est pas mon sujet. C'est qu'il y a une psychologie, il y a des aptitudes plus développées chez le garçon ou plus développées chez la fille, et des aptitudes cognitives en particulier. Si on force un garçon, par exemple, à jouer à la poupée malgré lui, eh bien c'est mauvais. Un garçon va devenir un homme et une fille va devenir une femme. Et une femme, elle porte la vie en elle. Et je suis désolée, une femme, c'est pas comme un homme. Il y a une particularité et on n'est pas des individus asexués. Voilà. Et donc bien sûr, heureusement qu'il y a la culture qui vient développer la nature et qui vient permettre que la nature s'accomplisse. Mais encore une fois, le sujet n'est pas du tout de dire un garçon peut pas faire ci, une fille peut pas faire ça. C'est pas ça le sujet. C'est juste qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. C'est que la femme, elle engendre la vie à l'intérieur d'elle-même et que l'homme engendre la vie à l'extérieur de lui-même. Et cette différence par rapport à l'engendrement, qu'on donne la vie ou pas d'ailleurs, qui est dans notre corps, cette différence dans l'engendrement rejaillit sur tout l'être de la personne. Et c'est pas juste quelque chose d'anodin.
Sur le site VigiGender, on a différents scans de manuels scolaires qui posent problème. Dans l'un des manuels de première SVT, je crois, en ES et en L, je crois que les lycéens doivent montrer en quoi le sexe biologique d'un individu lui confère une identité sexuelle. Est-ce que c'est problématique d'inciter les lycéens à réfléchir sur cette problématique ?
Non, tout dépend comment c'est fait. Les manuels de première actuellement en SVT, ES et L, ils sont tous idéologiques sauf Bordas. Bordas questionne effectivement le postulat de l'unique construction de la différence sexuelle. Il dit non, il y a des études scientifiques qui montrent que c'est pas uniquement construit. C'est le seul à le faire. Tous les autres manuels sont idéologiques. Donc tout dépend comment le professeur le fait. Bien sûr que non. Au contraire, moi, je pense qu'il faut les faire réfléchir sur leur identité, que cette identité est acquise à la naissance, on la reçoit, que bien sûr après on construit sa personnalité avec cette identité, mais que l'identité n'est pas, comme on le voit maintenant dans les futurs manuels, construite de la naissance à la puberté. C'est faux. C'est que notre identité se reçoit et ensuite se développe par tout ce que l'on reçoit. C'est complètement différent de dire ça. Donc non, moi je trouve ça très bien de faire de réfléchir les jeunes là-dessus, mais que ce soit fait de manière non idéologique, parce que c'est pas un service à leur rendre. Et surtout à un âge, en seconde, première, où ils sont en plein questionnement avec toute la puberté qui a des impacts sur leur corps, leur psychique. C'est important à ce moment-là que ce soit fait en vérité. Combien de jeunes ne savent plus vraiment qui ils sont, quelle est la signification de leur corps, tout ça, puisqu'on leur dit que tout est équivalent, que l'important c'est de prendre du plaisir et de prendre son pied. Ils sont paumés en fait.
Des études du CNRS, des travaux américains, français aussi montrent que les individus intègrent des clichés inconsciemment. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup si la solution c'est ni de forcer les enfants, mais qu'en même temps, si on ne leur permet pas de le faire, ils risquent d'intégrer des clichés, de développer du coup ces clichés.
Alors là, moi je dis qu'il faut arrêter de prendre les parents pour des andouilles hein, en fait. Hein. On n'est quand même pas trop bêtes avec nos enfants, on leur interdit pas de jouer avec tel ou tel jeu. Hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais interdit à ma fille de jouer au bricolage, j'ai jamais interdit à mon fils de jouer à la poupée, donc faut arrêter quoi. On laisse l'enfant jouer avec les jeux avec lesquels il a envie de jouer. Que des parents ouvrent des poupées à leur garçon, mais moi ça me pose aucun problème. Mais il faut arrêter de penser aussi, pardonnez-moi, que c'est parce qu'un garçon va beaucoup jouer à la poupée quand il est petit, que plus tard il sera une mère comme une autre mère. C'est pas le faire qui nous définit, c'est pas ce que nous faisons qui nous définit, c'est notre être dans notre corps qui nous définit. Si la mère est mère, c'est pas parce qu'elle fait, c'est parce qu'elle est, c'est parce qu'elle a porté l'enfant pendant 9 mois, parce qu'elle a donné naissance. Et j'ai vu encore là récemment un article qui montre que quand une mère a accouché, ça bouleverse à jamais sa vie, parce qu'elle a eu cet enfant en son sein. Le problème de cette théorie, c'est qu'il est dans le faire. Si tu es un garçon, c'est parce que tu joues au foot, c'est parce que tu fais du skate, c'est parce que tu as les cheveux courts, c'est pour ça que tu es un garçon. C'est ça qu'on leur dit à l'école. Eh bien non! Si tu es un garçon, c'est parce que tu as un zizi entre les jambes, point barre. Et une fille, c'est parce que tu as une vulve, tu as un utérus et tu pourras donner la vie en toi. Et on leur fait penser que c'est ce qu'ils vont faire qui va les définir en tant que garçon ou fille. Et bien sûr, il faut qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Que la danse classique, c'est pas forcément que pour les filles, mais force est de constater qu'il y a moins de garçons qui choisissent cette activité. C'est comme ça. Ce qui est peut-être une inspiration différente, la grâce est quand même davantage partagée par les femmes.
En amont de la conférence à Lyon, ont eu lieu des opérations de tractage autour des écoles à Lyon et du théâtre Nouvelle Génération. Comment est-ce qu'elle est perçue, cette théorie du genre, par les parents aujourd'hui ?
Alors l'accueil a été excellent au niveau des écoles. Aucune animosité, beaucoup de parents ont pris les tracts, ont posé des questions, étaient très très intéressés. Un père de famille notamment a dit à la personne qui tractait que vraiment il était totalement d'accord avec nous, que c'était inadmissible que ça rentre à l'école. Par contre, au niveau du CNG à Lyon, la personne a tracté à une séance. Il y avait un seul spectateur qui est venu avec ses deux filles, qui a pris le tract et qui est revenu vers la personne en lui disant que c'était scandaleux, qu'il était moyenâgeux. Nous sommes moyenâgeux quand nous affirmons que l'altérité sexuelle est nécessaire au bienfait de l'humanité, à l'humanité tout entière et finalement à chacun. Voilà.
Merci beaucoup Esther Pivet. On rappelle donc Le titre de votre ouvrage enquête sur la théorie du genre, comment les idéologues règnent encore sur l'école de nos enfants. Vous êtes la coordinatrice nationale de l'organisation Vigigender.
Merci beaucoup à vous.